Radio Théolis, la radio déconnectée à Lomé, au Togo. La radio déconnectée à Lomé, au Togo.
Bonjour et bienvenue sur Radio Théolis, l'émission Le Monde tel qu'il est. Je suis Vincent Lequen. Il s'agit de notre deuxième émission, deuxième épisode. J'espère que vous avez apprécié le premier épisode que nous avions consacré à présenter ce qu'est la géopolitique d'une façon un peu académique. Alors, c'est un petit peu la même veine que je vais vous proposer aujourd'hui avec une émission en deux parties. La première, à l'aide également d'autres étudiants de cette même classe de l'école management de Normandie, nous allons évoquer un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir d'ailleurs dans de futures éditions certainement, parce qu'il est certes contemporain, mais il est déjà ancien et on est certain qu'il sera encore présent dans le futur. Il s'agit de parler de l'influence que peuvent avoir les médias dans un contexte géopolitique. Bien sûr, les médias ont une influence sur la politique, sur la culture, sur beaucoup de choses, mais ils en ont aussi sur la géopolitique, et que ce soit des médias d'origine privée ou publique. Dans un sens comme dans un autre, il ne s'agit pas ici d'évoquer des opinions, mais les médias, nous le savons de toute façon, depuis longtemps, ont une influence aussi sur ce que peut être la géopolitique au service de gouvernants ou de pouvoirs privés. Ensuite de quoi, dans la deuxième partie, nous évoquerons un tout autre sujet, rien à voir avec les médias, qui sera un sujet plus tendance actuelle et qui relèvera donc des relations que peuvent avoir la Chine avec les pays africains, toute proportion gardée. Il y a pas mal de modifications et d'évolutions sur ce sujet. C'est pas un sujet nouveau qui vient de sortir. On en parle déjà depuis longtemps des investissements importants que la Chine a pu mener. Mais aujourd'hui, avec le contexte géopolitique mondial, cette relation, ces investissements de la Chine sur le continent africain connaissent un peu d'évolution. Et donc c'est un sujet qui a été traité dans les médias récemment, et donc il était très intéressant de nous y pencher. Et c'est ce que nous ferons dans la deuxième partie de cette émission. Voilà. Ainsi présenté le décor pour aujourd'hui, nous pouvons commencer avec le premier sujet. Et aujourd'hui, nous allons démarrer par un travail qu'ont réalisé deux étudiants suédois que sont Anna Carlson et Edvin Jarmstadt sur un sujet tout à fait contemporain, puisque nous allons parler de l'influence des médias et des distorsions de l'information. Pour être suffisamment clair en matière de méthodologie, ils ont déjà réalisé une infographie et un texte que je vais vous lire un instant sur ce sujet. Et puis ensuite, ce sera suivi d'une interview de Edvin et de Anna, auxquelles j'ai posé un certain nombre de questions sur leur sujet. Nous vivons dans un monde marqué par deux tendances significatives qui changent radicalement nos moyens de communication. La première tendance, c'est l'accès immédiat pour tout le monde au contenu des médias sociaux, où la liberté d'expression est le seul moteur d'interaction et la seule ligne directrice, à peu près. Deuxième tendance, c'est le défi de gérer les fausses informations et la désinformation. Avec environ 4,8 milliards d'utilisateurs de médias sociaux dans le monde et près de 5,2 milliards d'utilisateurs d'Internet dans le monde, la communication à travers différentes cultures, individus, entreprises, etc. est configurée pour une interprétation complexe et nuancée de l'information. Cependant, toutes les informations ne sont pas nécessairement considérées ou à considérer comme correctes de manière subjective. Une préoccupation particulière est le gain politique, évidemment. Certains gouvernements agissent en tant qu'organes de surveillance des médias, ce qui peut déterminer quelles informations parviennent au public avant de façonner l'esprit individuel. Beaucoup de choses sont enterrées dans le silence pour démontrer des systèmes politiques tout-puissants. Cela se manifeste dans la guerre de l'information, par exemple, entre la Russie et le reste du monde pendant et concernant le conflit avec l'Ukraine. L'utilisation de la propagande pour obtenir la supériorité dans la stratégie militaire et pour gonfler la position de la Russie dans la guerre. Évidemment, on prend l'exemple de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais toutes les guerres précédentes ont eu leur lot de désinformation, et même les plus anciennes, les guerres les plus anciennes dans l'histoire. En manipulant et en déformant l'information, un phénomène appelé chambre d'écho peut se produire. Un environnement où les gens ne rencontrent que des opinions et des informations qui renforcent ou reflètent les leurs. Dans ce cas, l'exposition à des perspectives diverses peut être limitée par les médias sociaux, déformant les opinions et perspectives des individus, conduisant à l'incapacité de discuter de sujets complexes et de considérer des points de vue opposés. Par exemple, le groupe d'âge des 16-34 ans, actuellement, passe en moyenne près de 6 heures par jour sur les médias sociaux, ce qui ouvre la voie à des interprétations difficiles de l'information disponible où la question de la chambre d'écho a été fortement influencée par l'infodémie pendant la Covid-19. La propagation d'informations trompeuses a également conduit à une méfiance envers les institutions publiques, ainsi qu'envers les dirigeants politiques et les gouvernements. En permettant à la désinformation et à la manipulation de l'information de s'insérer dans la même conversation, où l'information précise se mélange à la masse. Nous sommes bombardés d'informations chaque jour, et le monde entier peut en témoigner, enfin les gens du monde entier peuvent en témoigner, car les médias offrent un accès illimité à des perspectives et des informations diverses. Cela nous expose également à de nombreuses fausses informations, à de la désinformation, voire à des manipulations politiquement motivées où les chambres d'écho tendancieuses empêchent la possibilité de découvrir des perspectives différentes. Cela conduit à la propagation et de la désinformation ayant des conséquences pour la société, comme cela a été observé pendant la pandémie de Covid-19 et l'agression russe. Cela mine la confiance dans les médias, où même les gouvernements façonnent l'information qui devient publique. Il est donc crucial, selon nos étudiants, d'être un consommateur critique des médias et de trouver des sources diverses pour avoir une meilleure compréhension des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et ils terminent leur texte en nous posant une question. A-t-on déjà remis en cause la fiabilité de ce que l'on voit dans les médias ? À présent, nous allons passer à la partie interview de l'émission. Donc Anna puis Edwin vont répondre à, je crois, 8 questions sur le sujet que nous venons de présenter. Ensuite de quoi, nous essaierons d'en tirer quelques conclusions. Anna, Edwin, I'm very delighted to introduce you in this
bonjour,
radio program.
Anna et Edwin, vous êtes suédois et étudiant au sein de mon cours à l'EM Normandie en géopolitique. Et vous avez choisi un sujet
tout à fait contemporain, à savoir
l'influence des médias et les distorsions de l'information en général. Alors, je vous pose à Anna, je pose la première question. Quelles sont, d'après toi, les deux tendances significatives mentionnées dans le texte lu auparavant, et quel est leur impact sur la fiabilité de l'information des médias?
The two significant trends that drastically change our means of communication is first the immediate.
Les deux tendances marquantes qui changent radicalement nos moyens de communication sont, premièrement, l'accès immédiat au contenu des réseaux sociaux, où la liberté d'expression est le seul moteur de l'interaction.
Deuxièmement, fake news and le défi de la gestion des fausses nouvelles et de la désinformation. L'accès aux comptes et aux médias permet de rendre compte des événements en temps réel et de faire entendre un large éventail de voix.
On the other hand, it can be breeding ground for cela peut constituer un terrain fertile pour la désinformation, car il existe peu de contrôleurs pour filtrer les informations fausses.
Le défi pour votre managing fake news and misinformation significantly affects media reliability. Media outlets must carefully review the information they share and be proactive in fact-checking to maintain trust. And the presence of fake news and misinformation can erode public trust in traditional media as well as in social media as a source of information.
In what way do social media and freedom of speech contribute to the complex and nuanced interpretation of information?
Ma deuxième question sera de quelle manière les médias sociaux et la liberté d'expression contribuent-ils à l'interprétation complexe et nuancée de l'information? Et quels problèmes peuvent être rencontrés en termes de fiabilité de l'information?
Social media and freedom of speech contribute to the complexity and nuance of information by amplifying diverse voices and providing real-time updates. However, they also introduce significant challenges, including the spread of misinformation, echo chambers, and a lack of accountability, which can erode the reliability of the information available on these platforms. It is crucial for users to approach social media with a critical and discerning mindset, and for platforms and society to address these challenges to ensure the reliability of information in the digital age.
Anna, in the text you write,
Anna, dans le texte que vous avez rédigé sur ce sujet avec
Edwin,
il est mentionné que certains gouvernements ont à la fois le contrôle et la capacité de façonner l'information qui parvient jusqu'au public pour des raisons politiques. Pouvez-vous donner quelques exemples d'événements récents où cela s'est produit et comment cela affecte la fiabilité des médias?
One example is Russia's disinformation campaigns. The government of Russia has been accused of engaging in disinformation campaigns to shape narratives both domestically and internationally. This has happened during the ongoing conflict in Ukraine, where it has led to the information warfare between Russia and the rest of the world. And this was also seen during the COVID-19
où cela a conduit à une guerre de l'information entre la Russie et le reste du monde.
Was accused of spreading the false information where the virus come from.
Now we arrive at the last question for Anna.
Dernière question pour Anna avant
Anna,
de
what is
poser d'autres questions à Edwin.
And in what way can this be related to the reliability of information in the media?
Qu'est-ce qu'une chambre d'écho? Et de quelle manière peut-elle être liée à la fiabilité de l'information dans les médias?
An echo chamber is a social environment in which people are primarily exposed to information and opinions that align with their existing beliefs and
une
viewpoints.
Chambre d'écho est un environnement social dans lequel
exposure
les gens sont principalement exposés
to diverse perspectives
et à
can be limited by social media, distorting people's opinions and perspectives, leading to the inability of discussing complex topics and consideration of opposing views. Within this environment, people are less likely to encounter challenges to their beliefs, and therefore their critical thinking can be reduced. Echo chambers can also facilitate the rapid spread of misinformation within closed social networks. False or misleading information that aligns with the prevailing beliefs of the group may be easily accepted and shared, leading to the propagation of unreliable information.
Now, the first question for Edwin. autour de Edwin de
90.
La première concerne la pandémie de COVID-19 et c'est un problème que le monde, tous les pays du monde entier ont pu connaître.
What impact did the COVID-19
la pandémie de COVID-19 a affecté clairement et évidemment la perception de l'information et sa fiabilité. Quel impact a eu l'infodémie COVID-19 sur les médias, selon toi, Edwin?
Yeah, the COVID-19 pandemic, but also known as the COVID-19 infodemic, has significantly affected people's perception of information and its reliability.
L'infodémie COVID-19
misinformation about the virus and the effectiveness of vaccines, which company that produced the best vaccine led to an increase in resistance to preventive measures such as social distancing, staying at home,
cela a de graves conséquences, notamment une méfiance à l'égard des institutions et des dirigeants.
To false information.
L'infodémie a créé un environnement dans lequel les informations exactes sont diluées par des récits trompeurs, contribuant à un certain nombre de conflits dans les médias et les instances dirigeantes.
And the infodemic created an environment where accurate information was diluted by misleading narratives, contributing to a breakdown in trust, to a breakdown in trust in media and governing bodies.
As your text highlights,
comme le mentionne le texte que vous avez
significantly more times on social media than other
les jeunes passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux.
How does this affect their ability to critically assess or interpret information?
Cela affecte-t-il leur capacité à évaluer et à interpréter les informations de manière critique?
Yeah, so the younger demographic spend extensive more time on social media, averaging almost 6 hours per day, which poses challenges to their ability to critically assess and interpret information. And again, the prevalence of echo chambers that Hannah talked about on social media platforms can limit exposure to diverse perspectives.
La prévalence des chambres d'écoute peut limiter l'exposition à diverses topics,
and within those people
cette limitation
topics,
peut fausser les opinions, entraver les discussions
kind of
sur des sujets complexes et réduire
thoughts,
la prise en compte de points
kind
of vue opposés.
That side of
l'immersion dans les médias sociaux peut contribuer à une compréhension biaisée de l'information, en particulier
like
lors d'événements comme
this limitation can distort opinions, hinder discussions and on complex topics, and reduce the consideration of opposing viewpoints. And the immersion in social media may contribute to a skewed understanding of the information at hand, particularly during events like the COVID-19 infodemic.
Now we arrive at the seventh question for Edwin. What consequences does misleading information and misinformation have on society?
First,
then, as mentioned in the text, regarding COVID-19 and the Russian aggression.
Misleading information and misinformation have far-reaching consequences on society. In instances such as the ongoing conflict between Russia and Ukraine,
les informations
where propaganda is used to manipulate information
des conséquences considérables
gain.
Sur la société. Le texte met
misinformation
en lumière
during the COVID-19 pandemic
entre la Russie et l'Ukraine, où la propagande est utilisée
like
pour manipuler l'information
before,
à des fins politiques.
La
désinformation durant la pandémie de COVID-19 a conduit à une résistance accrue aux mesures préventives, favorisant un climat de méfiance à l'égard des institutions publiques et des dirigeants politiques.
Le
phénomène des chambres d'écho exacerbe encore les divisions sociétales en limitant l'exposition à des perspectives diverses, en entravant des discussions éclairées et en favorisant un environnement propice à la désinformation.
Now, Edwin, we reach the last question of this
enfin, c'est ma dernière question à toi, Edwin. L'importance of being a critical consumer de ce que vous voyez sur Internet est évidente aujourd'hui.
Internet is obvious.
En particulier, ta génération, complètement lucide sur cet aspect. Comment les individus peuvent-ils évaluer activement et garantir la fiabilité des informations qu'ils rencontrent au quotidien? Quelques conseils à nous donner sur ce sujet?
To actively assess and ensure the reliability of the information that you encounter on a daily basis, individuals can adopt like several strategies. Firstly, they should probably diversify their sources, seeking information from reputable and varied outlets to gain a more comprehensive understanding of the events that's happening.
Fact-checking tools and websites can also
be valuable resources for verifying information before accepting it as true or sharing it with other people. Also, you could develop media literacy skills, such as the ability to critically evaluate sources and discern between reliable and unreliable information.
Maintenir un scepticisme sain et être conscient du potentiel de parti pris des médias peut contribuer à devenir un consommateur d'informations plus avisé.
Enfin,
s'engager dans des discussions ouvertes et rechercher activement des perspectives diverses peut contribuer à contrecarrer la formation de sans point d'écho et promouvoir une compréhension plus nuancée de questions complexes.
Becoming a more discerning consumer of information. But finally, I think engaging in open-minded discussions and actively seeking out diverse perspectives can help counteract the formation of echo chambers and promote a more nuanced understanding of complex issues.
Ainsi s'achève la première partie de cette deuxième émission du monde tel qu'il est sur Radio Théolis. On peut, je crois, dire merci à Edwin et Anna pour le bon travail qu'ils ont effectué en tant qu'étudiants. On remercie aussi vivement les personnes qui ont bien voulu traduire leurs propos et s'exprimer avec de magnifiques voix. Il s'agit de Mélanie Thor et de Rémi Lequen. Ainsi s'achève donc la première partie de notre émission aujourd'hui. J'espère que vous patienterez pendant la pause, et, qui sera bonne pour vous, et que vous pourrez revenir et sur un sujet qui, je crois, intéressera beaucoup des auditeurs de Radio Théolis, à savoir les relations entre la Chine et l'Afrique et la situation actuelle de ces relations qui a un petit peu changé ces derniers temps, en particulier sous l'influence des événements géopolitiques actuels dans le monde, que ce soit proche de l'Afrique ou de façon plus lointaine du continent. Restez avec nous dans quelques instants, la suite du monde tel qu'il est sur Radio Théolis.
Radio Théolis, la radio déconnectée à Lomé, au Togo. La radio déconnectée à Lomé, au Togo.
Eh bien, je remercie les auditeurs qui sont restés avec nous pour cette deuxième partie de notre émission Le Monde tel qu'il est sur Radio Théolis, que moi, Vincent Lequen, j'ai le plaisir d'animer désormais chaque semaine et qui dure une heure. Nous voici dans la deuxième demi-heure et nous allons évoquer, comme je le précisais en fin de première partie, un sujet qui n'est pas nouveau et qui est souvent traité, c'est le sujet des relations entre la Chine et le continent africain et les pays du continent africain. Voilà. Je souhaite la bienvenue aussi, j'allais oublier de le faire, aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Alors, il y a quand même un intérêt à revenir sur ce sujet sans rebattre des sentiers déjà largement parcouru dans le passé, depuis que la Chine a fait le choix de s'intéresser fortement au continent africain, pour plein de raisons sur lesquelles nous allons revenir. Mais il est tout de suite intéressant, à mon sens, de préciser que ce sujet est quand même revenu sur le haut du panier, en particulier au travers d'un certain nombre d'articles qu'on a pu lire dans la presse, j'allais dire en 2023, et même un petit peu avant, parce que ces relations ont évolué un petit peu, non pas véritablement, et ça on aura l'occasion aussi de le voir, par un désintérêt que pourrait avoir la Chine sur le continent africain, parce que les cultures sont très différentes, parce que les projets n'ont pas toujours avancé à la vitesse que le souhaiteraient les investisseurs chinois, mais plus sous l'effet de l'influence des événements géopolitiques par ailleurs dans le monde. Par exemple, ne serait-ce que le ralentissement de l'activité chinoise, les conflits, etc. etc. C'est plutôt par ce prisme que je voulais évoquer ce sujet de la Chine-Afrique, comme le disent certains, et particulièrement les médias français, par comparaison avec les critiques qu'on entend beaucoup sur la France-Afrique. Avant de revenir sur cette actualité, il est quand même bon de se faire, et c'est régulièrement nécessaire quand on fait de la géopolitique, c'est de revenir un petit peu sur l'histoire et l'historique des relations en l'espèce sino-africaines. Alors elles existent depuis de nombreuses décennies, mais il faut quand même rappeler qu'elles se sont intensifiées fortement au début du siècle actuel, du 21e siècle, avec une Chine qui était elle-même émergente et qui cherchait à étendre son influence à l'échelle mondiale dans l'optique de devenir une puissance mondiale, ce qui est le cas 20-25 ans plus tard. Et il faut reconnaître que la Chine a adopté une approche relativement pragmatique envers l'Afrique en offrant des investissements massifs, des prêts, des projets d'infrastructures, de grands projets, et que ces initiatives, elles ont été accueillies favorablement, hein, très largement favorablement par de nombreux pays africains qui cherchaient à stimuler leur croissance économique et à combler certainement des lacunes en matière d'infrastructures ou de gestion de projets, par exemple. Et clairement, un aspect clé des relations sino-africaines a résidé dans le domaine économique. Et de fait, la Chine est devenue le plus grand partenaire commercial de l'Afrique, dépassant ainsi les États-Unis et l'Union européenne. Il faut le dire, les échanges commerciaux ont explosé au cours de ces dernières années, avec la Chine qui a importé beaucoup de matières premières, la grande richesse des pays africains, tels que le pétrole, les minéraux, les produits agricoles évidemment, et en échange de quoi elle a pu exporter vers l'Afrique beaucoup de biens manufacturés, des équipements et des technologies. On reviendra sur ce sujet, si on a le temps aujourd'hui, de la technologie, en particulier au travers du prisme de tout ce qui est télécommunication, et en particulier la diffusion d'outillage d'équipements en smartphone, des populations africaines, qui est aujourd'hui très largement dominée par les équipements chinois. Cependant, il faut aussi reconnaître que la nature de ces relations économiques entre la Chine et les pays africains a suscité quand même des débats. Certains observateurs estiment, par exemple, que la Chine a exploité beaucoup les ressources africaines pour alimenter sa croissance économique, sans réellement contribuer au développement durable des pays africains, alors que d'autres voient cette coopération comme une opportunité pour les nations africaines de tirer parti des investissements chinois et de moderniser leurs économies, et peut-être aussi de s'émanciper de l'Union européenne ou des États-Unis qui étaient plus influents auparavant. Mais il faut aussi dire que les investissements chinois en Afrique ne se limitent pas aux ressources naturelles, tout le monde le sait, mais ces investissements englobent également des secteurs tels que les télécommunications, l'énergie, les infrastructures de transport et, on l'a déjà dit, les technologies de l'information. les méga projets chinois comme la construction de chemins de fer transfrontaliers, de ports modernes ont considérablement amélioré la connectivité et la logistique sur le continent. Et ces initiatives ont le potentiel de stimuler la croissance économique et de faciliter l'intégration régionale. Ce faisant, évidemment, les investissements réalisés ont leur contrepartie et il existe de façon évidente des préoccupations qui subsistent quant à la soutenabilité de l'endettement croissant des pays africains envers la Chine. On va y revenir également. Il faut le dire, certains pays ont du mal à rembourser leurs prêts. Ils se sont fortement endettés. Certains sont même en situation de dépendance très très forte vis-à-vis de la Chine et en grande difficulté pour rembourser leurs prêts. Et quand on ne rembourse pas son prêt dans le domaine de la géopolitique, hein, de l'économie mondiale, ça peut avoir une influence sur la souveraineté des nations qui sont dans ces situations-là. D'un point de vue politique également, si on s'extrait de l'économie, la Chine a considérablement renforcé ses liens avec l'Afrique et la coopération sino-africaine s'étend à des domaines tels que la diplomatie aujourd'hui, la sécurité et la gouvernance mondiale. Et la Chine ne manque jamais de rappeler son soutien à l'Afrique, quand bien même, et nous allons y venir, c'est l'objet de cette deuxième partie d'émission, sur la situation réelle économique actuelle de la Chine et donc de son influence sur ses relations avec les pays africains. En conclusion donc de cette petite présentation de départ, les relations entre la Chine et les pays africains sont profondément complexes, car elle mêle les opportunités économiques et un certain nombre de préoccupations qu'on a évoquées à l'instant. Ce faisant, la Chine continue d'étendre son influence sur le continent et donc il est impératif que les pays africains élaborent des politiques et des stratégies qui garantissent une coopération mutuellement bénéfique, qui favorise le développement durable et préserve la souveraineté des nations africaines. Voilà, en matière géopolitique, on pourrait dire, ça serait aussi un résumé de ce qui vient d'être dit, de l'histoire qui nous amène jusqu'ici, c'est que la Chine tient beaucoup à ce lien indéfectible avec le continent africain, dans aussi sa stratégie d'être le leader de ce que les Chinois appellent, et pas que les Chinois, de ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire tous les pays du Sud, qui veulent s'émanciper, qui veulent se développer, qui sont donc des pays avec des économies émergentes. Mais voilà que, en particulier ces derniers mois, dernières années, les investissements chinois en Afrique connaissent quand même un ralentissement. Un expert du Fonds monétaire international, le FMI, évoquait que la relation Chine-Afrique est à la croisée des chemins. Ça, c'était une déclaration très récente, en octobre 2023. Et ça se caractérise par une tendance à une chute importante des prêts officiels chinois qui sont accordés aux pays subsahariens. Alors, on distingue bien les prêts officiels chinois, c'est-à-dire du gouvernement chinois, et on les différencie des prêts que peuvent faire les investisseurs privés, les entreprises chinoises privées. Et concrètement, ces prêts n'ont pas atteint 1 milliard de dollars pour la première fois depuis 18 ans. Ils sont à un niveau de 920 millions d'euros en 2023. Et les décaissements chinois ne représentent plus qu'une fraction des montants fournis en 2016, l'année du pic des investissements, avec à l'époque un investissement de 28 milliards de dollars. Donc on était à 28 milliards en 2016 et on est à 1 milliard en 2023. C'est quand même une chute forte. Alors, tout l'intérêt de cette émission et de ce sujet, c'est de comprendre pourquoi on en arrive là. Est-ce que c'est la fin de quelque chose ou est-ce que c'est l'influence de l'économie mondiale actuelle, tout simplement, ou de tout autre sujet ? Pour comprendre cette situation, je pense qu'il faut regarder ce qu'est la destinée de la Chine actuellement, en fait. Peut-être certains d'entre nous, on conserve l'image d'une Chine qui a une croissance économique très importante, qui inonde les marchés mondiaux de ses produits. Alors qu'en fait, ces derniers temps, sous l'influence de la géopolitique, sous-entendu par exemple, qui a provoqué un ralentissement fort des affaires, c'est le Covid, bien entendu, et puis par la suite aussi le conflit russo-ukrainien. Et puis il y a aussi des raisons profondément, des raisons intérieures, propres à l'économie intérieure de la Chine, qui connaît donc une croissance économique ralentie ces derniers mois, avec pour principale cause, la première étant une crise immobilière, sachant que par ailleurs, si on veut être précis, l'immobilier représente une part très forte et même démesurée de sa croissance, puisque l'immobilier représente 30% du PIB de la Chine. Voilà. Sans rentrer dans des considérations trop techniques économiquement, c'est ce qu'il faut comprendre, ce que l'auditeur doit comprendre, c'est que cette crise immobilière, elle a un impact très très fort sur l'économie chinoise. Mais pas que, on a aussi une problématique de chômage des jeunes en Chine et de baisse des exportations pour les raisons qu'on a dit, évidemment. Et tout ça amène la Chine, comme tous les autres pays, par exemple occidentaux, qui ont connu des crises économiques, à se convertir au réalisme budgétaire. Donc la Chine est contrainte d'être beaucoup plus réaliste et de faire beaucoup plus attention à ses investissements, pour des raisons essentiellement intérieures. Elles ne sont pas du tout liées à ses relations avec le continent et les pays du continent africain, mais plutôt pour des raisons de maturité économique. On n'a jamais vu dans l'histoire un pays qui avait une croissance économique ininterrompue et très forte. Évidemment, on est toujours rattrapé par des problématiques intérieures et extérieures. C'est cela qui intéresse en l'espèce, puisque c'est de l'extérieur c'est à l'extérieur que se situent les problématiques de géopolitique qui nous intéressent. Du coup, naturellement, les réserves de l'État chinois s'amenuisent et Pékin, en bonne gestionnaire, ne veut pas se retrouver pris au piège de dettes qui seraient insolvables chez ses partenaires, évidemment. Elle aura besoin du remboursement des dettes qui ont été réalisées avec les pays africains. Et à ce stade, il faut signaler que certains pays africains sont devenus les principaux. La Chine est pour eux le principal créancier, avec des pays comme la Zambie, l'Éthiopie ou le Kenya qui sont aujourd'hui en grande difficulté pour rembourser ces emprunts. On peut même parler de défaut de paiement ou même de surendettement. De là à parler de désinvestissement ou en tout cas de désintéressement de la Chine pour les pays africains, pour l'économie africaine, évidemment il y a un pas qu'il n'est probablement pas nécessaire de faire. Et pour ça, on peut quand même rappeler les énormes réalisations de la Chine. C'est en 2020, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, rappelait que parmi les grands travaux que la Chine a réalisés en Afrique, cela représentait 6000 km de voies ferrées, 6000 km de routes également, 20 ports, 80 grandes centrales électriques, 130 hôpitaux ou cliniques, 45 stades. On peut ajouter à ça des aéroports, des terminaux d'aéroports, des palais présidentiels, des parlements, des sièges de grandes organisations comme l'Union africaine par exemple, en Éthiopie. Et évidemment, on l'a dit tout à l'heure déjà en introduction, mais tout ça a été pour le meilleur accueilli avec beaucoup d'aspects positifs par les pays africains qui, à l'époque, dans la période 1980-90, qui était des périodes très difficiles pour les économies africaines, a beaucoup aidé donc à soutenir l'activité africaine. Et puis, d'un autre côté, il faut dire aussi que l'Afrique, représente pour la Chine une destination relativement mineure pour ses investissements. Par exemple, en 2022, c'est seulement 1,1% des investissements chinois à l'étranger qui étaient à destination des pays africains. Et de surcroît, ces investissements se concentrent généralement sur des secteurs tels que les mines, avec des effets qui sont assez limités sur deux aspects après lesquels les pays africains courent en général, que sont l'industrialisation et l'emploi. Par ailleurs, les pays africains, eux, actuellement, connaissent de grandes difficultés en termes de sources de financement qui ont tendance à se tarir. Du fait de la flambée des taux d'intérêt, les pays africains n'ont plus beaucoup accès au marché depuis des mois, et pas mal de pays souffrent de pénurie de devises et de cash, en vérité, pour soutenir le développement qui reste fortement nécessaire. Du coup, les pays africains comptent beaucoup sur la Chine pour maintenir son niveau d'investissement. Et ça tombe bien, puisque la Chine, il faut être lucide là-dessus, n'a pas du tout envie de se désengager de l'Afrique et compte beaucoup, on l'a dit en introduction aussi, sur le Sud global pour soutenir son positionnement au sein des pays du monde et dans sa lutte et dans son combat contre les États-Unis. Et cela peut se constater, ce maintien quand même de l'économie chinoise, plutôt par du fait des entreprises privées chinoises qui, il y a des témoignages dans ce qu'on peut lire ici ou là d'experts des marchés africains, les Chinois sont toujours très présents dans tous les grands appels d'offres publics, par exemple, où leurs propositions sont souvent très intéressantes, évidemment. C'est le cas, par exemple, je le citais également en introduction, mais c'est le moment de rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est le cas du marché des smartphones. Les marques Itel, Tecno et Infinix, qui sont très présentes sur le continent africain, puisque le groupe chinois qui distribue ces marques, représente 40% du marché du smartphone sur l'ensemble du continent et même 70% sur le seul segment des téléphones basiques. Et il s'agit, faut le savoir, de smartphones qui sont uniquement destinés au marché africain. On ne les trouve ni en Chine ni ailleurs. Et visiblement, ces marques n'ont pas du tout l'intention de se retirer du marché africain, puisqu'on voit qu'ils adaptent leur offre, puisqu'elle est uniquement centrée sur les pays africains, aux besoins spécifiques des Africains, par exemple en proposant des téléphones où on peut mettre plusieurs cartes SIM, puisque souvent en Afrique, les gens prennent des forfaits à durée limitée, etc. Voilà. Il est déjà temps de conclure notre demi-heure de cette deuxième émission du Monde tel qu'il est. Et donc, on peut conclure en disant que le couple Chine-Afrique se transforme, qu'il devrait quand même conserver ses spécificités, et parmi lesquelles son caractère foncièrement asymétrique, qui fait que un ralentissement de l'économie chinoise, on l'a expliqué, risque d'avoir des incidences profondes sur l'économie des pays africains. Mais à contrario, l'Afrique ne représente qu'une part marginale de l'activité chinoise. Par exemple, dans les matières premières, Pékin a pris soin de diversifier ses sources d'approvisionnement. On peut donner comme exemple le fait que la Chine soit le premier client du pétrole angolais, mais que l'Angola n'arrive qu'au 9e rang de ses fournisseurs de pétrole, loin derrière l'Arabie Saoudite. Donc la Chine fait bien attention à diversifier son économie. Voilà, certainement que nous aurons à revenir sur ces sujets, qui seront des sujets contemporains mais du futur, et donc c'est l'occasion de vous dire que j'espère vous retrouver très rapidement, à commencer par la prochaine émission, la troisième, le plus vite possible. C'était Le Monde tel qu'il est avec Vincent Lequesne sur Radio Tulis et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Merci à vous.
Radio Théolis, la radio déconnectée à Lomé, au Togo. Allumé au Togo.